À l'occasion du Capitole du Libre, nous recevons Dedi Dordogne. Il vulgarise votre smartphone, installe des systèmes alternatifs. Cet expert Linux lui préfère le Kuniaman.
CPU carré petit utile.
Sur la plateforme LinuxFR, vous avez posté un message expliquant comment en 10 paliers vous pouvez libérer un smartphone Android de toutes les applications primitives, en particulier ceux de Google. 10 étapes seulement, pas plus, pas moins.
Oui, alors en plus j'ai dû beaucoup réfléchir parce que c'est 10 étapes sans perte de fonctionnalité. Donc en arrivant à la 10e, il y a encore des choses à faire.
Oula, donc
non, les buts c'est que les gens, c'est vraiment libérer un maximum son téléphone sans perte de fonctionnalité. Et vraiment les premières étapes, c'est juste j'installe un logiciel libre, c'est déjà bien, on sait que ça existe. Et après, au fur et à mesure, on avance, on supprime les applications qui nous servent à rien, on remplace celles qui servent à quelque chose, mais qu'ont besoin de technologie Google, pas forcément utile. Genre, est-ce qu'une radio a besoin de savoir où j'habite? C'est pas évident.
Vous pouvez rappeler vite fait les 10 étapes.
Oui, alors les 10 étapes, c'est vraiment progressif. Mmh. Donc la première étape, c'est tout simple, c'est on installe un magasin de logiciels libres. Ça veut dire que sur son téléphone, on aura les moyens d'installer des logiciels libres. Vraiment, c'est la première étape, c'est juste, aujourd'hui, je n'installe pas, mais je sais que si j'ai besoin d'un logiciel un jour, j'ai un magasin disponible. Donc c'est une première étape, c'est déjà bien, ça s'arrêtait à la première étape. Alors chaque étape, on peut s'arrêter, c'est bien, il n'y a aucun souci. C'est vraiment l'idée que j'avais. La deuxième étape, c'est justement d'installer ses premières applications. Alors ce que je recommande essentiellement, c'est pas d'en installer beaucoup, parce qu'au début, quand on a un nouveau logiciel, on a envie de tout essayer, on a envie de s'éclater, d'en mettre dans tous les sens. Et bon, comme les étapes suivantes, il faut commencer à faire du ménage, si on commence à mettre du bordel, ça va être un peu compliqué. Donc je préfère que les gens ils y aillent doucement. Mmh. Après, la troisième étape, c'est simple, on supprime déjà tout ce qu'on n'utilise pas, genre SFR Press parce qu'on est chez SFR, Orange TV si on est chez Orange, enfin les compagnies. Donc toutes ces applications là, et puis celles qui sont installées par défaut sur notre téléphone, par Samsung, par Google, par tout le monde, et dans le tas, il y en a, on sait même pas à quoi elles servent, quoi. Donc autant les supprimer. Alors cette étape-là, elle est un peu longue parce que je dis aux gens, faites la liste de toutes les applications que vous avez sur votre téléphone pour pouvoir traiter les étapes suivantes. Ça, c'est très très long. Donc dans ma conf, faut pas le dire, mais je triche, il en manque parce que j'ai vraiment la flemme de le faire, mais non, faut le faire.
D'accord. Ensuite.
Donc c'est vraiment l'étape qu'on supprime. L'étape suivante, c'est commencer à supprimer les applications qui sont là mais qui servent à rien. J'appelle ça des phéromones numériques. C'est vraiment des gens qui marquent leur territoire en mettant leur application sur le téléphone, alors que l'application n'apporte rien, quoi. Genre les articles, les sites de presse, des choses comme ça. Donc je dis aux gens, allez sur votre navigateur, et si c'est la même chose que vous avez, supprimez l'application. Ça semble idiot, mais c'est ça. Il y a aussi des applications de transporteurs, par exemple. Enfin, typiquement l'application RATP en Paris. Ça sert à rien. Si on coupe Internet, on n'a accès à rien du tout. Donc en fait, ils sont contents d'aller sur Internet. C'est vraiment,
d'accord.
C'est vraiment, on croit gagner quelque chose, mais non, il y a vraiment rien à en tirer. En fait, c'est juste un navigateur en plus, mais il a marqué son territoire en mettant son icône dans le téléphone.
Une fois qu'on a fait ce nettoyage, une fois qu'on a enlevé, au moins neutralisé ces applications supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait d'autre ensuite?
Alors après on commence à vouloir aller plus loin. Donc on a déjà été très loin, faut le dire. C'est pour ça que je dis aux gens, à chaque palier vous pouvez vous arrêter. Je veux dire qu'on en est arrivé là, on commence à voir déjà quasiment plus que la moitié des logiciels, c'est des logiciels libres a priori. Donc comme le but c'est de perdre aucune fonctionnalité, c'est vraiment l'objectif que je me suis donné. Bon, très bien s'ils s'arrêtent là, mais s'ils veulent aller plus loin, il y a une étape pour pouvoir aller plus loin, c'est d'apprendre à sauvegarder ses données, parce que avant d'aller plus loin, c'est bien d'être sûr qu'on perdra rien. Et mine de rien, la blague que je fais toujours en conférence, c'est déjà tout le monde le fait, bien sûr. Bon.
Faux.
Voilà. C'est que moi-même, je le fais pas, donc j'ai du mal à critiquer. Et du coup, c'est juste savoir exporter. Alors, faut utiliser des formats ouverts. Donc, les formats ouverts, c'est des formats qui sont lisibles pour n'importe quelle application. Donc, c'est vraiment des standards. Et ça, c'est vraiment important parce que, si on veut changer d'application derrière, on verra les étapes suivantes, on a besoin de récupérer les données et d'avoir des standards, ça aide énormément à gérer ça. Parce qu'il faut se méfier, chaque opérateur de cloud, de machin, il a son format à lui, et on exporte en format Google, et il n'y a que Google qui peut exploiter derrière. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'identifier les formats ouverts et de les utiliser.
D'accord. Et ensuite
Et ensuite, on peut déménager son cloud. Donc le cloud, c'est quoi? C'est partout où on envoie des trucs, notre agenda, etc. Ça part chez Google ou chez Samsung ou chez Orange, selon qui vous voulez. et vous savez pas ce qu'ils en font. Enfin, si, on sait très bien ce qu'ils en font. Ils récupèrent les données et ils les vendent à des publicitaires pour vous mettre des pubs qui sont bien adaptées à ce qu'on est censé attendre. Et là, l'idée, c'est vraiment de la gestion cloud. Donc, pour ça, il y a un projet qui existe, qui a été lancé par Pharmasoft, qui s'appelle dégooglisons Internet, qui propose aux gens de sortir de chez Google pour aller ailleurs. Et dans ce cadre-là, il y a un collectif qui a été lancé qui s'appelle Chaton. C'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc, c'est des gens qui s'engagent sur une charte. Donc, notamment, de pas discriminer les gens, de totalement transparent sur ce qu'on fait. Donc, par exemple, s'il y a des soucis de sécurité, faut leur dire. Enfin, faut vraiment être totalement transparent. Faut utiliser que des logiciels libres. Beaucoup trop de L dans cette phrase. Et surtout, ils invitent les gens à participer. C'est-à-dire, moi, je fais partie d'un chaton à Brest qui s'appelle Infini. On fait des barbecues, on fait des apéros. Si les gens nous demandent comment ça marche, on leur répond. Et après, selon chaton, on a une maîtrise plus ou moins grande de notre technique. Dès que chez Infini, par exemple, on est jusqu'au bout. Et les ordinateurs, on sait où ils sont. On est les seuls à avoir accès. Enfin, voilà. Après, il y en a d'autres, ils hébergent ça dans une machine, dans le cloud, quelque part. Bon, c'est pas grave, c'est un début... Comme le but, c'est de perdre aucune fonctionnalité. Le but, c'est pas tout de suite de dire aux gens « limitez-vous », etc. Alors là, je dis « perdre rien ». C'est peut-être l'étape où on va perdre le plus. C'est que Google, ils ont énormément de moyens. Donc, ils peuvent leur dire « mettez 100 gigas de données sur votre cloud ». Un chaton, il le fera pas. C'est évident. Après, avoir une bonne hygiène numérique, c'est aussi... si ça peut permettre aux gens de réfléchir à ce qu'ils font sur Internet, c'est gagné pour moi.
Et ensuite, la dernière étape, c'est de basculer sur un système libre.
Voilà. Alors, c'est pas forcément possible. Il faut avoir un téléphone compatible. Et ce que je dis aux gens, c'est l'étape 8, elle est très grande. Enfin, vous avez déjà quasiment que du libre sur votre téléphone. Et pas forcément besoin d'aller plus loin parce qu'il faut un téléphone compatible. Et moi, je veux pas que les gens achètent un téléphone juste pour ça.
D'accord.
Parce qu'un téléphone, mine de rien, c'est beaucoup de terres rares, de choses comme ça. C'est très moche. Ça finit souvent à la poubelle. C'est très polluant. Enfin, moi, je préfère que les gens aient un téléphone avec un système non libre qu'un téléphone qui finit à la poubelle.
On va revenir à la première étape parce que sur la première étape, vous demandez aux gens d'installer F-Droid, qui est un store de logiciels libres. Mais tu nous imposes un choix. On n'a pas d'autre choix que F-Droid.
On peut télécharger directement sur Internet. Alors, F-Droid, il fonctionne avec des dépôts. C'est-à-dire que F-Droid lui-même, il ne fournit pas de logiciel. C'est un pointeur vers des dépôts différents. Et n'importe qui peut ouvrir son dépôt, même le logiciel privateur. C'est pour ça que je dis aux gens, méfiez-vous, ne mettez pas n'importe quel dépôt. Et du coup, n'importe qui veut fournir des logiciels pour F-Droid, il peut le faire. Il dit juste, j'ouvre mon dépôt et servez-vous.
Après, moi, je pense à des alternatives comme G-Droid ou AppView ou des choses comme ça.
En fait, c'est la même chose. Enfin, finalement, c'est la même chose, c'est chacun peut présenter ses applis.
Mais après, il n'y a pas une obligation d'aller sur F-Droid.
Voilà, moi, je propose F-Droid parce que c'est celui que je connais, tout simplement. Je connais un peu G-Droid aussi, mais je pense que c'est celui le plus facile à prendre en main, en fait. Parce que quand on n'y connaît rien, F-Droid, c'est bien, quoi. On arrive directement sur la page de nouveautés, on se dit, ah, c'est génial, j'apprends des choses.
Quand on utilise Google Play pour récupérer une application, alors évidemment, il y a largement plus de choix que justement sur ces annuaires alternatifs, mais il y a aussi quand même un contrôle qualité qui est opéré par Google pour essayer de repérer les logiciels qui pourraient être malveillants. Est-ce que sur G-Droid, F-Droid et autres, on peut être assuré que quelqu'un ne va pas envoyer un binaire qui aurait été piégé?
Alors oui, et plus que chez Google. Parce qu'il y a un projet qui existe, dont j'ai totalement oublié de nom, mais qui est très bien, qui travaille uniquement à ça, justement, à quelque part certifier les logiciels qui sont sur F-Droid.
D'accord.
Et F-Droid, en plus, il est transparent sur ce que fait votre logiciel. Il peut mettre, par exemple, ce logiciel peut avoir des fonctionnalités qui peuvent vous le déplaire.
D'accord.
Typiquement, c'est aller sur une plateforme non libre. Donc, bon, des fois, c'est normal. Genre, un logiciel qui va lire des vidéos sur YouTube, bon, l'avertissement, on comprend. Mais typiquement, Wikipédia, il y a un avertissement. Attention, ce logiciel trace vos données et les envoie sur Internet.
Ah.
Et pourquoi il y a cela? C'est que quand le logiciel Wikipédia plante, il envoie des informations sur Internet pour dire pourquoi ça a planté et dans quelles circonstances.
Le retour.
Voilà. Mais du coup, il a tracé nos données et les a envoyées sur Internet.
Est-ce que justement, cette intention de clarté, alors que effectivement il y a les informations de debug quoi qui remontent au final chez Wikipédia, c'est pas un risque un peu trop de paniquer finalement ces utilisateurs qui y vont? Certains y vont pour une intention pour aller sur le libre. D'autres niveaux, il faut le reconnaître, parce que ils ont un petit peu peur et des fois c'est une peur qui tourne à la parano.
Alors, il y a des logiciels qui peuvent que des fonctionnalités qui peuvent nous plaire. Notamment, il y a un dépôt pour Android que je recommande très très vivement, qui s'appelle The Guardian Project. Et c'est que des logiciels de sécurité. Et eux, il n'y a aucune notion de ça peut vous suivre, ça peut ne pas vous plaire, etc. Il n'y a aucun avertissement et c'est vraiment fait que pour ça. C'est des logiciels qui permettent d'aller sur Internet sans se faire tracer. Il y a même un système de VPN qui s'appelle Tor. Et Tor, c'est vraiment génial. On va à quelque part et on a une adresse IP qui peut être de n'importe où. D'ailleurs, on ne le sait pas soi-même. Hein. Nous, on ne sait pas par où on passe. Les systèmes, on ne sait pas par où ils passent. Et du coup, bah, quand on fait des requêtes quelque part, personne ne peut savoir par où ça passe et qui on est.
D'accord. Bon, on a installé tous ces logiciels. Donc, on passe aux étapes de nettoyage, si je puis dire. Justement, c'est une recommandation de Google, d'Apple pour leur propre store, voire pour leur propre mise à jour. C'est de dire, vous avez trop d'applications, il faut nettoyer, il faut que vous fassiez la liste et autres. Mais c'est du bon sens, on va dire.
C'est du bon sens, peut-être, mais il faut prendre le temps de le faire. Puis moi, je propose une méthode. C'est vrai que couler dans ces applications en disant « est-ce que ça sert, ça, machin ?» c'est pas forcément compliqué. C'est pour ça que je dis vraiment étape par étape. On commence par celles qu'on n'utilise pas du tout. Ensuite, on regarde celles qui servent à rien. Et voilà, c'est une méthode. Hein. Si je dis « vous coupez Internet sur votre téléphone, vous regardez si vous lancez votre application, elle fonctionne toujours. » Bon, si elle fait que Internet, quoi. Donc, autant utiliser un navigateur. Et ça, on n'y pense pas. Et du coup, on va pas ouvrir toutes ces applications pour voir si ça change quelque chose. Faisons dans l'ordre. Déjà, commençons par celles qui servent à rien, quoi. Enfin.
Parce que c'est vrai que ça, c'est un détail qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'applications natives sur les smartphones, mais maintenant donc on a les Progressive Web Apps qui est un standard de sites du web qui peuvent marcher hors connexion, qui peuvent installer une icône comme n'importe quelle application normale et on peut la voir donc en raccourci depuis la page de garde. Ce serait bien, effectivement, de réduire énormément. Mais est-ce qu'on risque pas, justement, par le fait d'utiliser ce genre d'application, avoir moins de contrôle? Puisqu'en fait, ces applications, elles aussi, elles tombent dans le fond. Elles font aussi du tracking.
Oui, c'est de l'Internet. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est que niveau d'accès aux données d'Android, ils sont limités aux données auxquelles Firefox a accès. Donc déjà, Firefox, il ne demande pas énormément d'autorisation, il ne demande pas avoir accès à notre carnet d'adresses, il ne demande pas avoir accès aux informations personnelles. Donc déjà, si on est sur une application de ce type, elle sera limitée par les droits donnés à Firefox. Ensuite, oui, ça existe, mais est-ce que c'est mieux qu'une appli? J'en sais rien.
Pas faux. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Denis Dordogne, au Capitole du Libre, pour la libération des smartphones, hasta siempre. Alors, question suivante, justement, les clouds, que ce soit Google, iCloud, ou le cloud d'Orange, ou SFR Cloud et autres, justement, ils permettent de sauvegarder des informations concernant les applications, leur état et autres. Est-ce que justement, les solutions de cloud que vous nous suggérez, est-ce que justement, on va pouvoir sauvegarder justement les états, ces informations-là, concernant les applications?
Concernant les applications elles-mêmes, je sais pas, parce que c'est pas une fonctionnalité que j'utilise, à vrai dire, donc j'aurais du mal à... Ça permet surtout les clouds qu'on propose chez les chatons, c'est essentiellement synchroniser son agenda, synchroniser son carnet d'adresses, ses tâches, ses flux de nouvelles, ses podcasts, enfin, il y a plein, même ses SMS si on veut. Donc, il y a vraiment des données, quoi. Après, la photo du téléphone, on l'a pas.
Quand je parlais d'applications, c'était justement les agendas, c'était justement le carnet d'adresses, les SMS, les historiques d'appels aussi également?
Chez certains chatons. Alors, tous les chatons proposent pas tous les services, hein. Je précise, hein, par exemple, chez Infini, on fait pas les SMS.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a justement sur le site des chatons, sur d'autres, des éléments qui nous permettent de voir justement ce qu'on peut sauvegarder avec
Alors malheureusement, le site des chatons est actuellement très mal fait. Donc c'est chatons avec un s.org, je précise. Et il est très mal fait et il est en cours d'amélioration pour justement pouvoir chercher par rapport à un catalogue de services quel chaton le propose.
Au final, vous nous conseillez LineageOS. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que LineageOS? Je pense à Replicant, je pense à i, qui a un stand de présent ici.
Oui, alors i, clairement, je ne le dirais pas, parce qu'il vient avec des logiciels propriétaires. Donc, c'est un choix qu'ils font, pourquoi pas, hein, c'est juste que moi, je recommande que du logiciel libre, donc ce ne serait pas cohérent de le proposer. Replicant, c'est très bien. Je connais le développeur principal. Il est très sympathique. Il travaille énormément. C'est vraiment du bon boulot ce qu'il fait. Mmh. Après, c'est compatible avec très peu de téléphones. Donc, pour un grand public, c'est compliqué de leur dire d'utiliser Replicant. Et en plus, on perd des fonctionnalités. Et c'est vraiment quelque chose que je veux pas. Donc, Replicant, clairement, le GPS, il le gère pas.
Oula. Ça,
il gère quand même la localisation par rapport aux ondes radio, hein, machin. Donc, il a à peu près 30 mètres de précision. C'est déjà pas mal, hein, mais bon, clairement, on n'a pas la finesse du GPS.
Un smartphone, quand même, c'est non seulement du logiciel propriétaire, mais il y a aussi du matériel qui est propriétaire, des blobs binaires pour faire tourner quand même certaines fonctions. Quand on va passer sur Lineage OS, donc un système d'exploitation alternatif, quelles sont les fonctions qu'on pourrait ne pas avoir d'une manière plus ou moins correcte? Je sais pas, l'appareil photo ou ce genre de choses?
Alors moi, je suis pas un grand utilisateur de toutes les fonctionnalités de mon téléphone, mais j'ai rien vu. Alors quelque chose qu'on perd, clairement, ça faut l'annoncer. C'est à partir du moment où on veut changer d'OS, on perd toute la couche de certification de son téléphone. Ça veut dire que si on fait paiement par téléphone, etc., ça marche plus. Tous les paiements sans contact, les choses comme ça. Personne n'est capable de certifier contre le logiciel et le matériel. Il y a rien qui contrôle. Du coup, c'est désactivé. Et on peut pas revenir en arrière là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis aux gens. Payez 8, c'est très bien. Si vous voulez aller plus loin, c'est mieux, c'est sûr, mais réfléchissez-y.
Pour ceux qui sont des amateurs du paiement sans contact, il faut vraiment oublier Lineage OS parce que ça, on perd
Non, faut oublier d'utiliser le paiement sans contact. Ouais. C'est...
J'ai dit pour les amateurs. Justement, on a toutes ces étapes. Combien de temps une personne, si elle se lance là-dedans, elle va pouvoir arriver au bout de tous ces paliers, à tous ces systèmes?
Alors moi, je pourrais dire personnellement, ça m'a pris 2 heures, mais je ne suis pas forcément le meilleur exemple. Mais du coup, je conseille déjà de ne pas toutes les faire en même temps. Il faut y aller doucement, il faut prévoir sur plusieurs semaines, etc. Il n'y a pas d'urgence, vu que chaque étape est bien, qu'on s'arrête à chaque étape. Faut pas se précipiter. Après, oui, installer des logiciels libres, etc., ça va super vite. Hein. L'étape vraiment la plus longue, c'est de repérer les applications dont on veut se débarrasser.
Juste une question. Je suppose que tu as testé avec des personnes lambda réelles ce que certains osent appeler des moldus. Ça a été qui? Ça a été la tata du Quercy? Ça a été quelqu'un que tu ne voulais plus qui t'appelle?
Alors bon, je suis quelqu'un qui fait très peu d'installations parce que j'aime pas faire le support derrière. Je considère que quand on a une installation, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait le support. Non, mais parce que j'ai énormément de retard dans mes emails, donc quelqu'un qui me dit je peux pas appeler, je vais répondre 2 mois plus tard, quoi. Ça ça risque d'être gênant.
Ouais. Donc du coup.
Mais du coup, j'ai beaucoup fait ça surtout avec des gens qui étaient déjà motivés, hein, qui avaient fait les premières étapes, clairement, hein, qui avaient déjà avec que des logiciels libres et juste qui n'osaient pas se lancer. Et clairement, quand on a un téléphone compatible, il y a juste à lire ce qu'il y a à faire. Hein,
D'accord.
Alors, faut être méfiant sur les téléphones compatibles. Parce qu'il y en a qui sont écrits compatibles, mais ça c'est très compliqué. Enfin, moi je sais que j'ai acheté un téléphone Huawei, il est revenu en magasin parce que j'ai jamais réussi.
Est-ce qu'il y a des médailles qui sont données comme aux alcooliques anonymes pour le nombre de jours où on a arrêté les logiciels privateurs?
Non, parce que on sait très bien que quelqu'un qui est tombé dans le livre, il reviendra jamais en arrière.
Bon, c'était un peu le thème de la saison suivante. Merci Xavier. Bon, on n'est pas loin des 7 paliers du deuil d'Android finalement. Enfin, de Google Android.
Bah même pas, puisqu'on perd aucune fonctionnalité, donc non, on est toujours la même chose, on voit pas la différence jusqu'à qu'on installe un autre système alternatif, on voit aucune différence.
D'accord, non, parce que je pensais pleurer au début, on commence d'abord.
Non,
et ensuite,
non, on est toujours content.
On
tout
la
le
colère,
long.
On se venge sur les smartphones. Ensuite...
Non, on est de plus en plus content à chaque étape. On est plus fier de soi. Alors d'ailleurs, je mets pas, mais en conférence, je dis la dernière étape, c'est de se vanter, hein, c'est de dire à tout le monde. Hey les gars, regardez le téléphone que j'ai. Alors, t'es encore sur Android? Là, là.
Question, on va dire, extérieure Android. Est-ce que justement, on peut appliquer ces éléments à d'autres systèmes d'exploitation mobile? Je pense à iOS, mais je pense aussi également à Windows Mobile, ou je pense également à Firefox OS, où là, on est vraiment dans le deuil.
Alors, Firefox OS, c'est pas utile, parce que, bon, déjà, personne n'utilise, donc... Non, c'est pas beaucoup utilisé et c'est déjà beaucoup libre. Donc l'intérêt de faire plus libre, je pense pas que ça vaut le coup quand on est. Firefox OS propose déjà d'installer que des logiciels libres quasiment. Donc on est déjà en libre, on va pas. Moi je. C'est comme ceux qui sont sur i, est-ce que je vais leur proposer de migrer vers plus libre? Je sais pas. Oui, t'as des applications, typiquement la géolocalisation sur un logiciel privateur, je vois pas l'intérêt.
Firefox OS, l'un des problèmes, c'est qu'il a été lancé, mais il n'était pas vraiment mature, à tel point d'ailleurs que des personnes internes à Firefox n'y passent pas de suite. Ça a été l'un des grands combats du logiciel libre, c'était d'arrêter d'avoir l'image d'amateurisme dans les années 2000 pour pouvoir convaincre des personnes d'y aller. Est-ce que maintenant on est absolument sûr que les systèmes d'exploitation alternatifs aux smartphones sont suffisamment matures, ou est-ce qu'il faut vraiment faire gaffe malgré tout? Et qui peut nous conseiller ou trouver l'information sur le degré de support des fonctions sur son smartphone quand on va installer tel OS sur tel smartphone?
Alors, le vrai problème de Firefox OS, c'est que ça a été lancé par la fondation Mozilla, mais sans communauté qui était prête à le prendre. Clairement, c'est pas le cas de LineageOS, qui a une communauté déjà avec beaucoup de gens. Il y a des forums qui existent avec que des passionnés qui expliquent comment pirater son téléphone, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un truc un peu de geek qui a une bonne communauté.
D'accord. Donc, LineageOS, si je me souviens bien, c'est une continuité de CyanogenMod. Donc, comment on en est venu à Lineage?
Alors, CyanogenMod, c'est un peu comme Firefox OS, hein, c'était obtenu que par une entreprise qui a lancé le truc et qui a pu dire à un moment, je veux faire un produit commercial parce que c'est pas un modèle d'affaires qui me convient. Mmh. Alors, on a énormément de chance, c'est que CyanogenMod, c'était un logiciel libre. Mmh. Et du coup, on a pu repartir sur ce qui existait déjà et faire autre chose à côté. Donc, c'est vraiment la continuité. Et d'ailleurs, ceux qui étaient à CyanogenMod, enfin, moi, j'ai pas vu la différence quand je passais de l'un à l'autre. C'était vraiment, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est plus commercial. Mais comme un logiciel libre, vraiment pour ça que j'ai aux gens d'utiliser que des logiciels libres. Si ça se passe mal, il y aura quelqu'un d'autre pour reprendre.
Concernant les deux autres OS privateurs, Windows Mobile et iOS, est-ce qu'on peut aussi appliquer les 10 principes?
Non, parce que iOS, clairement, quand on est dessus, c'est qu'on veut être enfermé. C'est un choix. On a des menottes, etc., mais on est content parce que le gardien, il nous dit exactement où faut aller. Donc, on est très bien là-dedans. Il n'y a aucune raison de changer. Donc, clairement, iOS, non, on peut pas, déjà, parce qu'ils interdisent l'installation de logiciels tiers. Donc, on est obligé de passer par leur magasin qui contrôle les choses. Donc, je sais qu'à une époque, on peut pas installer VLC. Je sais pas encore si c'est le cas.
Ah, si, il y a une application VLC aussi.
Okay. Il y a même pas de navigateur réel dessus, d'ailleurs.
Ah, oui.
En dehors de Safari. Et ça, c'est un énorme souci.
Non, mais c'est ça. Ils refusent, ils veulent tout contrôler. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas précisé sur le magasin d'application. F-Droid, il a pas les limites de Google Play. Enfin, de Play Store. Par exemple, Play Store, il veut des choses qui sont valables au niveau familial. Donc, pas de jeux en ligne, pas de porno, des choses comme ça. Bon, sur F-Droid, le dépôt par défaut, il n'y en a pas non plus. Par
contre, oh
parce que personne n'a pensé à le faire, je suppose.
Ah.
Voilà. Donc, on pourrait dire, c'est pas sûr pour les enfants, mais bon, si les enfants sont capables d'installer une application, je pense qu'ils sont capables d'aller sur des sites internet. Enfin.
Oui. Aussi sur iOS, sur les appareils Apple, il y a le jailbreak qui permet justement d'installer des stores alternatifs.
Oui et non, parce que pour profiter du jailbreak, faut utiliser des applications dont on ne sait pas ce qu'ils font. Donc ça se trouve qu'elles ajoutent un mouchard sur le téléphone, donc je recommande de ne pas le faire.
D'accord.
On a déjà le mouchard d'Apple, ça suffit.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes au Capitole du Libre et nous libérons notre smartphone avec Denis Dordogne. Comment savoir si son propre smartphone est routable et peut supporter la grève d'un autre système d'exploitation dessus?
Alors, routable, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, par défaut, on n'est pas route sur son téléphone. Et il faut surtout pas utiliser les logiciels qui existent aujourd'hui pour router son téléphone, parce qu'ils installent tous un autre espion que celui de Google. Donc jamais, on ne touche pas à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas confiance. Donc, le truc après, il faut pouvoir le flasher, ce qu'on veut dire. Et là, le seul moyen de savoir si on peut flasher, c'est d'aller sur le wiki de LineageOS. Et là, il y a toute une liste de logiciels, de téléphones par marque. On clique sur le modèle qu'on a et on regarde dedans. Donc, il y a la procédure pour l'installer. Il y a surtout des avertissements si c'est compliqué. Et voilà, faut pas faire comme moi, dire ah c'est bon, c'est dans le wiki, ça marche. Non, parce que pour le téléphone Huawei, il y a écrit attention, quasiment personne n'a réussi à le flasher.
Alors pour router son téléphone, pour dire, ça veut dire prendre des droits supplémentaires, mais du coup ça veut dire que les applications qui tournent aussi ont ces droits. Mais il y a certaines applications qui utilisent en fait un espace disque qui est réservé. C'est ça que donne l'accès en fait le route pour des données qui sont protégées, des données bancaires, parfois du SMS chiffré ou même sa clé d'accès à Netflix, etc. Comment on fait pour récupérer et être sûr que ça va être bien réintégré? Ce sont quand même des étapes supplémentaires qui sont pas simples.
Tout ce qui est vraiment qui dépend de la sécurité du téléphone, on le perd. Hein. Enfin, clairement, tous les systèmes de, c'est pas que le téléphone devient moins sûr, c'est que Google garantit qu'entre le matériel qu'on a et le logiciel, il n'y a aucun risque qu'il y ait un problème de perte de données. Enfin, c'est vraiment de la garantie totale. Et sur Lineage OS, comme c'est un système, il n'y a personne qui va s'amuser à certifier. Mm. Ça coûte énormément cher, bien sûr. Puis en plus, c'est un logiciel libre, donc ça bouge énormément. Donc clairement, c'est une fonctionnalité qu'on perd.
On a passé toutes les étapes, on est passé sur Lineage OS et au final, on se rend compte que c'est un peu difficile. On veut revenir chez le privateur. Est-ce que justement, il y a des moyens pour revenir tranquillement et tout récupérer ce qu'on avait fait?
Alors oui, mais on récupérera pas tout. Il y a ce qu'on appelle la partition de démarrage, elle change et ça, on peut pas revenir en arrière. Et c'est justement là qu'on garantit, par exemple, les Google Pay et compagnie. Donc, on perdra la garantie, on pourra pas revenir au paiement sans contact, etc. Ça, c'est définitif. Après, pour repasser sur un système Samsung Vierge, par exemple, ou Samsung avec la couche orange, oui, ça se trouve sur Internet, on n'a qu'à flasher, on perd rien, voilà.
D'accord, donc le
retour. On peut même en profiter pour changer de système, pour perdre la couche orange et avoir que la version Google. Enfin bon, il y a des choix.
D'accord, ok. Donc le retour est tout à fait possible si au final, du coup, vos paliers, ben, comme vous l'avez expliqué, on peut s'arrêter et finalement ne pas continuer et s'arrêter et continuer ce qu'on faisait avant avec moins d'espace disque au final vu qu'on a installé pas mal de logiciels libres. Mais c'est déjà une bonne étape justement pour reprendre un peu la main sur le smartphone. Finalement,
oui,
tous ces conseils.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, et puis ça permet aussi de parler de logiciel libre, parce que j'espère que les gens, une fois qu'ils l'auront sur leur téléphone, ils vont y penser pour leur ordinateur, etc., ou c'est même plus simple. Et puis surtout, quelqu'un qui a la deuxième étape, par exemple, je dis qu'il peut s'arrêter là, parce que cette deuxième étape, c'est juste installer un logiciel libre. Mm-hmm. Parce que ce que ça change, c'est que, déjà, si quelqu'un lui dit, ouais, le navigateur, par défaut, il me plaît pas beaucoup, il peut lui dire, mais il y a un Fennec F-Droid, t'as pas F-Droid? Dis donc, et déjà, ça permet de diffuser. Et peut-être que cette deuxième personne, cette troisième personne, ils iront des étapes suivantes.
Est-ce que quand même il y a des fabricants, je sais que c'est pas ton idée de recommander des smartphones et tout ça, mais est-ce qu'il y a des fabricants qui garantissent l'accompagnement, voire qui proposent carrément d'avoir système d'exploitation comme Lineage OS ou d'autres systèmes alternatifs sans les Google Apps?
Alors il y en a un qui existe et qui est très très bien, qu'il faut utiliser, que je suis très honteux de pas utiliser, mais on avait plus en stock quand j'ai racheté mon téléphone. C'est Fairphone. Alors, c'est vraiment un truc très bien, parce que non seulement ils utilisent que du système libre, et en plus, c'est des téléphones réparables. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, je le dis pendant ma conférence, attention au téléphone que vous achetez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des téléphones, on peut pas changer la batterie, comme il n'y aura pas d'obsolescence logicielle, parce qu'il n'y a pas un jour où quelqu'un va dire, mais ça m'intéresse plus. Faut penser qu'on va le garder très longtemps, son téléphone. Et j'ai un schéma que j'utilise qui vient de iFixit.com. Mm. Donc c'est un site très bien qui propose de regarder à quel point un téléphone est réparable. Donc pareil, hein, faites pas comme moi, regardez bien à quel point c'est facile à réparer. Parce que j'ai acheté un téléphone d'occasion et je l'ai cassé en voulant changer la batterie. Ah, c'est vrai qu'il y avait écrit très difficile. Bon, j'ai surestimé mon pouvoir de bricoleur.
Je crois que Fairphone, c'était les seuls à avoir eu la note de 10 en réparabilité.
Oui, c'est vraiment totalement réparable.
C'est une exclue Orange en France.
Non, tu peux l'acheter nu, mais c'est compliqué de l'avoir en stock.
Voilà.
on fera une autre émission à part pour faire fin, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur leur travail.
On va finir. Pour finir, peut-on finir justement avec ces systèmes d'exploitation qui jouent tout sur le capitalisme du processeur central qui laisseront entrevoir la veille d'un grand soir?
Oui. À quoi ça sert un téléphone portable après tout? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Si on n'a pas de téléphone, on n'est pas tracé par son téléphone.
Du coup, ça marche aussi avec les ordi, du coup.
Exactement.
Ok.
Vivons sobrement et on sera libéré du capitalisme. Si on veut vivre moins sobrement, on plonge dedans et c'est normal, ça va avec.
Est-ce qu'il y a un moyen de trouver les install parties, les soirées où il y a des gens qui aident à libérer son smartphone près de chez soi? Est-ce qu'il y a une carte, un calendrier? Est-ce que tu as un site à recommander pour trouver cette info?
Alors oui, j'ai un site pour tout ce qui est libre, événements du libre, même pour son ordinateur, etc. Ou même des barbecues avec des gens qui font du libre. C'est agendadulibre.org, donc tout attaché. Et dedans, il y a des événements, il y a une carte avec les événements près de chez soi. Et peut même, s'il n'y a pas d'événement prévu, il y a quelque chose qui s'appelle Trouve ton orga. Et on peut dire dans quelle ville on habite et ça te proposera des associations qui existent, éventuellement pour pouvoir les contacter, pour dire est-ce que vous faites un événement prochainement ou proposer de le faire.
Merci Denis Dordogne.